Bataille, l'empoisonnement d'Emma Tabure. Un procès qui a pris dans la Mayenne les proportions d'une cause célèbre s'engage aujourd'hui devant le jury de Laval. Il s'agit de la mort mystérieuse d'une jeune fille de 17 ans, extrêmement jolie, Mademoiselle Tabure, appartenant à une famille aisée du village de Gauvron. L'an passé, un jeune homme qui sortait de l'école d'Alfort, M. Trenet, venait s'établir comme vétérinaire dans ce petit bourg et, en demandant son installation définitive, prenait pension chez M. Tabure, son oncle. M. Trenet ne tarda pas à s'éprendre de sa cousine. Il la demanda en mariage et fut éconduit. Ce refus causa à Mlle Tabure un vif chagrin. Elle aimait passionnément le jeune vétérinaire et continua de le voir en secret. Au commencement du mois d'avril, elle dut avouer à ses parents qu'elle était enceinte et dans les premiers jours de juin, elle mettait au monde un petit garçon. M. Tabure se rendit aussitôt auprès de son neveu, le sommant de réparer sa faute en épousant sa fille. M. Tréhel lui répondit que c'était son feu le plus cher et demanda à être admis aussitôt au chevet de la malade. M. Tabure y consentit. Une heure après cette visite, Mlle Tabure expirait dans des convulsions atroces. L'autopsie révéla qu'elle était morte empoisonnée par l'arsenic. Une instruction fut ouverte. Tréhel répétait que la jeune pauvre fille s'était certainement suicidée, comme elle en avait manifesté à plusieurs reprises la volonté bien établie après laquelle, depuis qu'elle se voyait enceinte. Elle avait toujours aspiré, espéré, disait-il, que le mariage pourrait s'accomplir avant qu'elle ne fût devenue mère. Et l'union tardive qui lui était enfin promise n'avait pu la consoler de ce monde. Mais le parquet n'a pas admis cette hypothèse du suicide de Mlle Tabure. Il accuse aujourd'hui M. Tréhet d'avoir empoisonné sa maîtresse de concert avec Mme Tabure, que des propos de Commère représentent comme ayant été la maîtresse de son neveu et la rivale de sa propre fille. Tréhet et Mme Tabure étaient restés seuls auprès du lit de la malade pendant la dernière heure de sa vie. Et c'est à ce moment que le poison aurait été administré. Les deux accusés protestent avec la plus grande énergie de leur innocence. Y a-t-il eu crime ou suicide? C'est ce que nous apprendrons les débats que toute la ville de Laval suit avec anxiété. Tréhel, le principal accusé, est un jeune homme de 25 ans, assez joli garçon, qu'on voudrait savoir plus ému et qui répond à l'interrogatoire de M. le Président Lefebvre avec un sang-froid remarquable et une étonnante présence d'esprit. Près de lui, Mme Tabure, en grand deuil de sa fille, et M. le Président interroge tout d'abord la jeune vétérinaire. « Vos antécédents sont bons. Vos parents vous ont fait entrer en 1884 à l'école d'Alfort. Vous êtes resté 5 ans. Vous avez fait votre service militaire au sortir de l'école et en quittant le régiment, vous êtes venu vous fixer à Gorvou. Vous prenez pension chez votre oncle, M. Tabure, qui exerce la profession de chapelier. Vous étiez traité comme l'enfant de la maison. Monsieur et Madame Tabure étaient très fiers de vous. Tous deux comptaient bien que vous épouseriez votre cousine Emma. Pourquoi avez-vous quitté subitement, au mois d'avril dernier, la maison de votre oncle? Vous n'aviez à payer qu'une pension insignifiante de 30 francs par mois pour prendre une pension beaucoup plus chère. L'accusation vous dira que Martha Bure était enceinte de vos œuvres et que votre départ n'a pas eu d'autre motif que le désir de vous soustraire aux responsabilités. Réponse. Oh, pas du tout. J'avais eu une scène violente avec mon oncle. Quelque temps auparavant, un vieux parent de M. et Mme Tabure, qui avait manifesté à plusieurs reprises l'intention de leur laisser sa petite fortune, était mort sans leur léguer un centime. Emma Tabure ne serait plus riche, alors vous l'abandonniez. Mais je proteste énergiquement contre cette interprétation de ma conduite. À quelle époque la jeune fille s'est-elle donnée à vous? Nos relations remontaient au commencement de septembre. Emma Faber était une jeune fille très douce, timide, tout à fait réservée. Sa conduite était restée jusqu'alors irréprochable. Elle vous aimait plus que vous ne l'aimiez. Mais si je ne l'avais pas aimée, je serais marié depuis longtemps. Et à quelle époque l'avez-vous promis le mariage? Emma m'avait toujours laissé ignorer qu'elle fut enceinte. Et je n'avais pas à le lui promettre le mariage, monsieur le président. Comment? Mais elle parlait de son mariage à tout le monde. Elle s'en montrait toute joyeuse. On voyait qu'elle vous adorait. Alors le mariage n'était cependant pas facile. Nous étions cousins, germains. L'Église aurait exigé des dispenses. Arrivons au jour de l'accouchement. Dans la matinée, votre cousine a déjeuné d'assez bon appétit. Mais vers midi, elle fut prise de premières douleurs et monta dans sa chambre, où elle se coucha. Et vers 1 heure, son père, l'ayant entendu gémir, monta dans son appartement et la vit tenant un enfant dans ses bras. « Papa, lui dit-elle, me pardonnes-tu ? » Et elle lui tendit le nouveau-né. « Oui, ma fille, s'écria M. Tabure. Oui, je te pardonne, mais pourquoi nous avoir tout caché ? Et savez-vous ce que répondit la pauvre fille ? Je ne vous ai rien dit, parce qu'on cousin, mon cousin me l'avait défendu. C'est faux ! Je n'avais rien à lui défendre, car je ne croyais pas à sa grossesse. Monsieur Tibur, père, s'est mis à votre recherche. Il vous a trouvé prenant votre café au restaurant. Pourquoi l'avez-vous entraîné au second étage de votre maison ? Ben, mon oncle criait très haut et ameutait tout le monde. Je voulais bien une explication, mais je ne voulais pas de scandale. Et que s'est-il passé entre vous ? Mon oncle me reprocha amèrement d'avoir séduit sa fille. Je lui répondis qu'Emma était enceinte. Si elle était enceinte, je l'épouserais. Et votre oncle a voulu vous emmener tout de suite auprès de sa fille pour la restaurer, la rassurer, la consoler par votre présence. Pourquoi n'avez-vous pas suivi immédiatement ? L'accusation soutiendra que vous êtes allé prendre quelque chose dans votre pharmacie. Mais je ne suis pas entré dans ma pharmacie, je le jure. J'ai suivi mon oncle à quelques pas. Il fallait bien lui donner le temps de préparer Emma à ma venue. Et quand je suis arrivé dans la chambre, ma cousine avait la tête rejetée en arrière, les yeux clos. Le docteur Daniel lui donnait des soins, entouré de 3 ou 4 voisines. Le médecin a quitté le malade à 2 heures. Et demi. À ce moment, l'état de votre cousine n'était le plus satisfaisant. Vous êtes resté seul avec elle. C'est vrai, j'ai supplié les femmes qui se trouvaient là de nous laisser. J'avais besoin de causer avec Emma, de l'embrasser, de lui promettre qu'elle serait ma femme. Je lui ai pris la main en lui disant « Ne te fais pas de chagrin, ma chérie. Nous nous marierons, je te le jure. » Et pendant que je lui parlais, elle a été prise de vomissements violents. J'ai envoyé chercher aussitôt le docteur, Wessé, qui qui n'a rien trouvé d'inquiétant et qui s'est retiré après avoir prescrit une petite potion. Emma était beaucoup plus calme. Je me suis assis à une petite table auprès de son lit et j'ai écrit une longue lettre à mon père. Puis, la voyant assoupie, je suis monté au grenier premier pour fumer une cigarette. On ne pouvait pas fumer dans sa chambre. Vous savez qu'on a trouvé sur les marches de l'escalier du greffier des traces de déjection? On a gratté ces traces et l'analyse chimique a révélé qu'elles renfermaient de l'arsenic. Or, les cabinets de la maison sont en bas. Comment se fait-il que les marches du grenier aient été souillées? Ben, je n'en sais rien. C'est pas à moi de l'expliquer. On ira sans doute poser des cuvettes sur la demande du défenseur de Tréhaie, Maître Cholin-Sermière. Monsieur le Président donne lecture de sa lettre que l'accusé écrivait à son père dans la chambre de sa cousine. Tréhaie y annonçait l'accouchement d'Emma Tabur et terminait en demandant à son père l'autorisation de se marier. Vous avez passé le reste de la soirée près de la malade. Vous étiez seul avec votre tante auprès de son lit. Vous chassiez tout le monde. Et vers 6 heures, Emma s'est trouvée plus mal. Et quelques minutes après, elle a rendu le dernier soupir. Mais oui, quand je me suis aperçu qu'elle s'affaiblissait, j'ai envoyé de nouveau chercher le docteur Boisset. Je lui ai dit qu'Emma avait dû s'empoisonner. C'est encore aujourd'hui ma conviction. Oh, ce n'était pas celle du père Tabur qui voulait vous tuer. Ce n'était pas davantage le sentiment de vos voisines. L'une d'elles, Madame Roger, vous a même personnellement accusée. Et comme vous protestiez de votre innocence, c'est bien, vous a-t-elle répondu. Cette affaire entre vous et Dieu. Vous n'ignorez pas les conclusions de l'autopsie. Emma Tabur est bien réellement morte, empoisonnée par l'arsenic. Les experts chimistes en ont trouvé plus de 2 grammes dans les viscères ou les vomissements. C'est beaucoup plus qu'il en faut pour tuer une personne. Mais je suis bien forcé de croire que ma cousine s'est suicidée. Ce suicide est très étrange. Emma Tabur était vive, enjouée, elle chantait du matin au soir, et le matin de sa mort, elle chantait encore, la pauvre enfant. Quelle raison avait-elle de s'empoisonner? Ses parents lui avaient pardonné et vous lui promettiez le mariage. Ben, je ne sais pas à quel mobile elle a pu obéir. Peut-être la crainte du déshonneur. Interrogatoire de Madame Tabur. Et des plus sommaires. Les commérages qui avaient amené son inculpation n'ont pas tenu un seul instant devant les témoignages sérieux recueillis par l'instruction. Rien ne prouve qu'elle ait été la maîtresse de son gendre ou qu'elle ait, dans un accès de jalousie immense et intense, prémédité avec son amant l'assassinat de sa fille. Le procureur de la République déclare qu'en ce qui la concerne, il abandonne l'accusation. La cour passe à l'audition des témoins. Monsieur Villiers, professeur à l'école de Parvincy, puis le docteur Boisdel, doyen de la faculté de médecine, font connaître le résultat de l'expertise. Dans les intestins, dans l'estomac, dans les déjections, partout, ils ont trouvé de l'arsenic. Étant donné la quantité observée, dit le docteur Boisdel, les vomissements ont dû se produire très rapidement, une demi-heure ou 3 quarts d'heure au plus après l'injection du poison. Toutefois, ces vomissements ont pu être retardés. S'il est établi que la jeune fille avait mangé à midi une tartine beurrée, l'absorption d'aliments gras produit une accalmie, mais les symptômes ordinaires de l'empoisonnement par l'arsenic ne s'en manifestent pas moins avec rapidité et intensité. étouffement, crampe, soif ardente, etc., etc., monsieur le président. Et les deux médecins qui ont approché Edmatabur n'ont constaté aucun des symptômes que vous indiquez, maître Cholin-Servinière. Oh, je crois qu'ils se sont surtout préoccupés de l'enfant. En effet, le docteur Gagnel affirme qu'au moment où il a visité la malade, une heure après l'accouchement, Edmatabur était absolument bien. Et quand il apprit à 8 heures du soir que la jeune fille venait de mourir, il resta absolument stupéfait. C'est seulement entre 3 et 4 heures que le docteur Boisset, appelé en toute hâte, a constaté des vomissements et des crampes. M. Tabur est appelé à la barre. Il raconte longuement les pourparlers qui ont suivi l'accouchement de sa fille, son explication avec son neveu, la visite du jeune vétérinaire dans la chambre de la couchée, et Tréhère refuse catégoriquement de s'expliquer avec son oncle. Monsieur le Président, au témoin, vous avez pardonné à votre fille, Monsieur Tabur. Oh, je le jure, monsieur, je lui avais promis d'oublier sa faute. Plusieurs voisines déclarent qu'Emma Tabur avait passé une très bonne après-midi. Le médecin a même dit devant elle « Tu voudrais bien que toutes les femmes aient des couches pareilles. » Une demi-heure avant de rendre le dernier soupir, Emma Tabur a dit à la femme Cerisier, Lavandière, qui se trouvait à son chevet « Embrassez-moi, car je vais mourir. » Puis elle a demandé Tréhée, qui était retourné chercher le médecin. « Monsieur Tréhée, père, marchand de chevaux à Saint-Hilaire-du-Harcouët, déclare qu'il n'aurait jamais donné son consentement au mariage, mais qu'il se serait fait un devoir de désintéresser tout le monde. Monsieur Mulet, sabotier à Gevron, « J'ai bu avec Monsieur Tréhée quelques jours après la mort de sa cousine. Comme je lui avais fait part des bruits qui couraient, je ne sais pas si l'on trouvera quelque chose, me répondit-il, mais je ne serai pas gêné pour me défendre. J'ai de quoi me sauver, l'accusé. Sans doute, oui, j'ai mon innocence. » Après l'audition de plusieurs témoins à décharge, qui affirment que Tréhée a toujours été un brave garçon, le procureur de la République prononce son réquisitoire. Il requiert contre l'accusé le châtiment suprême. Mais, sur une éloquente plaidoirie de maître Chevalier Servillière, avocat de Tréhée, et quelques paroles de maître Dominique au nom de Madame Tabur, le jury rapporte de la chambre de ses délibérations un double verdict d'acquittement.